dépit du titre, Dracula n'a pas vraiment le rôle le plus central dans le roman. Donc, en fait, il n'a vraiment un rôle actif et important que dans la première partie, le journal de Jonathan Harker. Donc, à part lui, en fait, tous les principaux protagonistes du roman prennent la parole tour à tour. Donc, Dracula, en fait, il n'existe que par le regard des autres. Mais en fait, c'est aussi le cas d'ailleurs de Van Helsing. Parce que Van Helsing a droit à la parole, mais uniquement à la fin du roman, quand les chasseurs sont partagés en deux groupes et qu'ils se retrouvent seuls avec Mina et lui seul en état de faire la narration. Donc sinon, donc, il n'existe que par le regard des autres, c'est-à-dire notamment John Seward qui fait appel à lui et qui nous le présente. Donc il écrit ainsi « J'ai écrit à mon vieux maître et ami, le professeur Van Helsing d'Amsterdam, qui s'y connaît mieux que personne dans les maladies les plus étranges du monde. Au premier abord, cet homme semble très tyrannique, mais cette tyrannie est due au fait qu'il sait mieux que quiconque ce dont il parle. C'est un philosophe, métaphysicien, un des hommes de science les plus avancés de cette époque, un de ces rares hommes qui, en dépit de son monstrueux savoir, ait gardé un esprit ouvert. Ajoutez à cela des nerfs d'acier, un tempérament que rien ne vient briser, une résolution indomptable, une maîtrise de soi, une tolérance sans pareil et enfin un cœur d'or. Telles sont les armes qu'il emploie dans la noble tâche qu'il s'est assignée. » C'est ainsi que Seward le décrit, mais qui nous le présente, car comme il le connaît, bien sûr, dans le manuscrit, c'est pas lui qui le décrit, c'est Mina qui va nous le décrire pour la première fois quand elle va le rencontrer. Alors, comme Dracula, Van Helsing, c'est un archétype, c'est le champion du bien, celui qui connaît les secrets du mal et qu'il sait comment l'affronter. Alors, dès qu'il arrive au chevet de Lucy, il sait, il a la connaissance. Pourtant, jusqu'à la mort de cette dernière, ça fait quand même près de 100 pages, Van Helsing ne fait que répondre aux questions par d'autres questions et il se montre un peu plus évasif. Alors en fait, cette volonté de garder le secret, de tenir ses compagnons dans l'ignorance, même si au départ il n'y a que le docteur Seward, qui est tout de même son fidèle disciple, donc cette situation n'est pas étrangère au fatal destin de Lucy, puisque comme ils ne savent pas ce qu'ils affrontent, ce qu'ils ont à craindre, les proches de la jeune femme la laissent sans surveillance et ils négligent même les recommandations du professeur. Alors lui, Van Helsing, il en rejette la responsabilité sur la malchance, sur la fatalité. Mais Jacques Boimard, dans son article de l'histoire au roman, Vie et non mort du roi des vampires, il n'hésite pas à fustiger l'incompétence du savant. Alors Van Helsing, alors dit-il, a une tendance manifeste à se prendre les pieds dans tous les obstacles qui se présentent. Il ne lui manque que de recevoir un coup de pied du vampire au derrière. Alors en fait, quatre fois dans le roman, le professeur, il a sauvé Lucy au petit matin grâce à une transfusion de sang, mais quatre fois la jeune femme a rechuté. Alors par la suite, le professeur, malgré tout, doit révéler ses soupçons à ses alliés. Est-ce qu'il a besoin de leur aide pour délivrer Lucy, qui est devenue morte-vivante? Alors pendant quelque temps, le Hollandais, il a conscience que l'ignorance dans laquelle il les a tenus les a affaiblis face à Dracula. Et c'est à ce moment-là que les réunions des chasseurs de vampires se succèdent. Leurs connaissances, elles sont mises en commun par Mina Harker. Et en fait, le livre de Bram Stoker, c'est le résultat de toutes ces... c'est le compte-rendu de tous ces multiples intervenants. Malgré cela, bon, ça ne dure pas. Bien qu'il ait déclaré la fin du secret, Van Helsing décide de tenir Mina à l'écart, alors que pourtant elle connaît déjà tout de l'affaire. Alors, il déclare « Notre bonne fortune a voulu que, jusqu'à présent, cette femme nous soit d'un précieux secours. Mais, après cette nuit, il ne faudra plus la mêler à cette terrible affaire. Nous autres, les hommes, sommes bien déterminés à exterminer le monstre. Voilà une tâche où la femme n'a pas à intervenir. Même s'il n'en subit aucun dommage physique, son cœur, son âme peuvent subir des conséquences horribles à la suite des horreurs qu'elle affrontera. » Elle pourrait en souffrir tant le jour, dérèglement nerveux, que la nuit, insomnie et cauchemar. Alors là, quelle condescendance vis-à-vis des femmes. En passant, donc rien d'étonnant à ce que, a posteriori, le vampire, il apparaisse comme un symbole de liberté dans cette Angleterre victorienne, et notamment d'émancipation pour les femmes. Alors, et puis bien entendu, bon, une nouvelle fois, le malheur, il suit cette décision, puisque Minor est victime d'agressions répétées de la part du vampire, et sans même que ni son mari, ni Van Helsing et ses chasseurs ne s'en rendent compte. Et cela, bien qu'il y ait eu auparavant l'exemple de Lucie, qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Alors, ah bon, donc, à ce niveau, il ne s'agit plus d'incompétence, mais de véritables lacunes dans le déroulement de l'intrigue. Car si sa structure est originale, ce n'est pas le cas de l'intrigue du roman. Jacques Guamard définit parfaitement ses limites. Certains estiment que Van Helsing est un personnage manqué. Dracula appellerait les mêmes commentaires et pour les mêmes raisons. Le vampire se définit par une liste de pouvoirs qui sont autant de scènes à faire, et le désagréable docteur, c'est Guamard qui donc, et le désagréable docteur dispose d'une liste de remèdes qui sont autant de scènes à défaire, puisqu'ils annulent les pouvoirs du non-mort et le mettent en danger. De là cette stratégie littéraire si décriée et qui tient en deux règles. Un, Dracula ne doit pas utiliser tous ses pouvoirs à la fois, il ne doit pas gagner tout de suite. Deux, Van Helsing, qui connaît l'efficacité de son armement, doit arriver toujours trop tard. Alors, Fred Saber-Hagen a utilisé ces lacunes pour écrire Les Confessions de Dracula. Puisque le livre de Stoker est un recueil de comptes rendus, les lacunes sont le fait de leurs multiples auteurs qui ont délibérément falsifié la vérité. Donc, le roman de Saber-Hagen, c'est lui aussi un journal qui raconte les mêmes événements, mais du point de vue du seul personnage qui n'avait pas eu la parole jusqu'à présent, Dracula. Donc, à propos des étonnantes coïncidences, là, Saber-Hagen ne peut rien, et pour son narrateur, c'est-à-dire Dracula, il ne peut s'agir d'autre chose que de coïncidences. En revanche, la mort de Lucie est bel et bien provoquée par l'incompétence de Van Helsing, selon Saber-Hagen, non par l'intervention maléfique du vampire, ni même par la simple fatalité. Alors, le passage chez Stoker ne manque pas d'incohérence, et Saber-Hagen, par l'entremise du conte, met le doigt dessus pour réhabiliter son narrateur et dans le même temps discréditer le professeur, qui est encensé par Seward dans les. À la fois par Seward et par Minor dans le livre de Stoker, mais seulement, dit donc Dracula dans le roman de Bergen, parce que Van Helsing a tendance à faire bonne impression, néanmoins, surtout au premier abord et auprès des jeunes et des inexpérimentés. Alors, à en croire Dracula lui-même, ce sont les transfusions de sang qui ont causé la perte de Lucie et non pas donc les interventions du vampire. D'une certaine manière, c'est pas très juste, puisque à l'époque de Bram Stoker, en 1897, les connaissances sur le sang n'étaient pas les mêmes que maintenant. Donc en fait, on aurait. En fait, normalement, les transfusions n'auraient pu faire aucun mal à Lucie, puisque à l'auteur, c'était l'intention de l'auteur. Alors, en revanche, il y a une lacune que Saber-Hagen répare, c'est en effet qui a drogué les servantes dans le roman, donc, qui a versé du laudanum de leur boisson, et ça ne peut être selon que Lucie, selon Saber-Hagen. Alors d'ailleurs, Eric Holstein, bon, Bon, Eric Holstein, dans Bifrost, il décrit d'une manière assez dure les personnages des chasseurs de vampires. Un aliéniste sadique et sûr de lui, une jeune fille à la limite de l'hystérie, une autre que sa lascivité contenue rend à moitié folle, un avoué frustré que ses expériences au château du comte vont éveiller à une froide psychose, un étalon texan qui bride à grand mal sa sève, et enfin un occultiste à moitié dément, charlatan et gourou qui a la décapitation et la profanation facile. Alors, chez Saber-Hagen, ils ne paraissent plus seulement être cela, ils le sont. Toutefois, cette volonté de réhabiliter son héros pousse parfois l'écrivain américain à commettre les mêmes erreurs que Stoker, c'est-à-dire les mêmes entorses à la logique. C'est Jonathan Harker, notamment, qui en fait les frais. Alors, le personnage donc, est le seul qui ait côtoyé Dracula dans le roman de Stoker. Donc, pour Saber-Hagen, il était un peu difficile de remettre en question son témoignage. Donc, par exemple, Jonathan a bien entendu le vampire promettre à ses maîtresses qui leur laisserait l'avouer dès qu'il n'en aurait plus l'utilité. Donc, selon Saberhagen, une pirouette scénaristique, et ce n'est plus le conte qu'il a dit, mais les femmes vampires en imitant sa voix. Alors, néanmoins, malgré cette peu crédible hypothèse, Saberhagen a bien utilisé les. Alors néanmoins, l'écrivain a su utiliser à son avantage le fragile état émotionnel de Johanan que le récit original laisse deviner. Avant même d'avoir rencontré le comte, et même après, alors que celui-ci n'a commis aucun acte menaçant, tout au plus son comportement est-il étrange, Harker a visiblement été bouleversé par les superstitions de tous les villageois. Donc il n'en reste pas moins que Johanan Harker est un personnage particulièrement valeureux, comme le fait remarquer Van Helsing à Mina. Et plusieurs fois d'ailleurs, Stoker insiste là-dessus, et Saberhagen fait même dire à Dracula, donc puisqu'il ne peut pas revenir sur le témoignage malgré tout de Jonathan Harker et sur sa rencontre avec le vampire. Donc Saberhagen fait dire à Dracula, Harker, j'ai plus de respect pour lui que pour tous les autres membres de la meute humaine qui plus tard a suivi Van Helsing sur ma trace. Le courage mérite toujours le respect, et c'était un homme courageux, bien que plutôt ennuyeux. Alors, le cinéma n'a pas rendu justice au personnage de Jonathan Harker. D'ailleurs, la séquence citée du roman n'a été que rarement adaptée et jamais fidèlement. Et Harker a toujours été présenté comme un jeune premier falot et ennuyeux. Alors, Van Helsing, lui, a été mieux traité au cinéma, mais pas par Saberhagen. Toujours parmi les incohérences d'ailleurs de Saberhagen, il y a le personnage de Mina Murray, Madame Jonathan Harker, qui réunit tous les documents qui permettent d'affronter le comte, mais selon le manuscrit et qui est fait par Dracula et que raconte Saberhagen, le manuscrit de Mina ne serait qu'un tissu de mensonges destiné à tromper ses alliés et son époux. En ce cas-là, pourquoi avoir rempli son journal de ces mensonges? Alors qu'il aurait suffi de ne rien indiquer, un journal étant par essence personnel, aucun de ses alliés ne lui aurait tenu rigueur de ne pas conserver ces événements douloureux sur papier. Alors, dans son livre sur les détectives du surnaturel, Richard Russell, il ne fait pas remonter la lignée de ses personnages à Sherlock Holmes, mais à Van Helsing. Donc, il écrit: Bien qu'il y ait eu un précédent, le docteur Martin Hesselius, Van Helsing est peut-être l'archétype du détective de l'occulte. En tant que guide fictif pour les recherches de Stoker sur les légendes d'Europe centrale concernant le vampirisme, Van Helsing s'imposa comme le héros d'un développement mineur mais significatif dans la fiction policière et fantastique, le détective de l'occulte et ou le chasseur de fantômes. Donc pour l'auteur, les récits d'Arthur Conan Doyle, comme ceux d'Edgar Poe, relevaient d'un autre genre nommé Mystery. Dès lors, les différences, elles ne tiennent en fait que dans les convictions du personnage. Van Helsing, bien que scientifique, croit résolument au surnaturel, alors que Sherlock Holmes, lui, a fait sienne la doctrine: quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité, ce qui élimine d'emblée le surnaturel. Alors, qu'en est-il des chasseurs de vampires, donc les alliés du vieux savant? Ce sont également des archétypes, non pas des archétypes littéraires, comme Dracula ou Van Helsing, mais plutôt des archétypes sociaux. Donc, Jonathan Harker, lui, représente un peu la. Alors, Jonathan Harker est le personnage le plus actif du roman, vedette de toute la première partie, face au comte, qu'il affrontera à deux entreprises, en compagnie de ses alliés ces deux fois. Par sa bravoure et par son dynamisme, mais aussi parce qu'il est le premier personnage à apparaître, le jeune avoué est celui en qui le lecteur s'identifiera le plus volontiers. Alors, c'est plus un archétype social, il représente la classe moyenne, puisqu'à l'époque, les romans étaient plutôt destinés à donc, la classe moyenne, donc le peuple ne lit pas, et l'aristocratie ne va pas lire un roman de 4 sous comme celui-ci était considéré. Donc, Jonathan Harker, lui, représente vraiment cette classe moyenne qui lira le livre. Le peuple, lui, il est représenté par Quincy Morris, même si c'est un homme d'action qui est plutôt aisé, qui parcourt le monde. D'ailleurs, tous les personnages du roman sont plutôt aisés, que ce soit Lord Godalming ou même Renfield qui surprend Seward par son érudition. Donc pour en revenir à Maurice, Quincy Maurice, il s'agit néanmoins d'un Américain, un cow-boy, donc presque un sauvage pour ses distingués britanniques. Quant à Arthur Holmwood, bien sûr, il représente l'aristocratie et John Seward, lui, représente la science véritable, pas celle du surnaturel, celle de Van Helsing. Comme ces trois amis, donc Seward, il figure le monde réel face au fantastique et la raison, surtout en tant que directeur de l'asile d'aliénés de Whitby. Bon, les personnages féminins aussi, d'ailleurs, sont des archétypes définis uniquement par leur sexualité. Donc, c'est semble-t-il tout ce qui définissait les femmes dans cette Angleterre victorienne, bien représentée par la prude Mina Murray. Lucy Westenra, plus émancipée, incarne une Angleterre à venir. Pourtant, 100 ans plus tard, donc, le fantastique il a guère évolué, puisque dans les slashers comme Vendredi 13 ou Halloween, c'est toujours l'héroïne virginale qui survit et les jeunes filles délurées qui succombent. Bon, on peut en revenir à Van Helsing. Bon, là, ce sera plutôt pour le Van Helsing à l'écran maintenant. Alors, selon le site IMDb, le roman de Bram Stoker, il a été adapté 20 fois entre 1922 et 2012, pas toujours fidèlement, loin de là, mais la filmographie de Dracula comporte 274 films durant la même période, parce qu'il y a des crossovers improbables et puis des transpositions parfois abracadabrantes. Même s'il n'a pas donné lieu à autant d'incarnations, Van Helsing est apparu, selon la même source, dans 63 films en tenant compte des 20 adaptations plus ou moins officielles. Alors le premier à l'avoir interprété, c'est Edward Van Sloan, qui, comme Bela Lugosi, avait joué Dracula sur la scène en 1927, 4 ans avant de jouer le rôle à l'écran. Alors le film de la Universal, d'ailleurs, c'est une adaptation, donc on l'a déjà dit, de la pièce de Hamilton Dean et John Balderston. Donc la pièce avait l'avantage de simplifier l'intrigue et de gommer certaines incohérences, notamment en rendant plus naturels les liens entre les personnages qui sont mis en présence par hasard dans le roman. Alors Mina Murray devient Mina Seward, la fille du directeur de l'asile d'aliénés, toujours fiancée à Jonathan Harker, qui là ne s'est pas rendu en Transylvanie. C'est Renfield qui reprend le rôle de l'avoué, qui s'est rendu en Transylvanie et qui n'a pas échappé à Dracula. Il est devenu son serviteur dément et il finit dans l'asile d'aliénés de Whitby. Alors, comme dans le roman, donc c'est Seward qui fait venir Abraham Van Helsing en Angleterre, mais seulement après la mort de Lucy. Alors Edward Van Sloan, américain, malgré son nom, au contraire de Van Helsing, incarne un vieux savant aux cheveux blancs et à l'allure rigide qui est loin du Van Helsing de Stoker, qui était parfois trop expansif. Il affirme d'emblée à Seward la présence d'un Nosferatu et l'identifie immédiatement lorsqu'il voit Dracula, qui est un aristocrate venu de Roumanie qui s'invite régulièrement chez les Seward. Alors Mina tombe sous influence du vampire, comme dans le roman, mais cette fois, son fiancé, qui n'a pas été en Transylvanie, se montre des plus sceptiques. Ce qui fait que Van Helsing se retrouve seul face pour affronter le monstre, sans Holmwood, sans Maurice, qui ne figure pas dans le film, avec comme seul allié un Jonathan sceptique et un Seward plus âgé que lui. C'est pourtant avec la même simplicité que Van Sloan se débarrasse de Dracula hors champ. Très différent du modèle littéraire, le très british Peter Cushing est pour la majorité des fans le plus célèbre et le meilleur des Van Helsing. Alors plus jeune que le savant Stoker, il a 45 ans quand il joue le rôle, il est plus dynamique. D'ailleurs, comme on l'a dit, les scènes, comme on l'a vu même, les affrontements sont très physiques. Le personnage est aussi d'ailleurs plus humain. Alors que chez Stoker, le vieil Hollandais fait souvent preuve d'une expansivité chaleureuse, de mauvais aloi envers ses compagnons, l'homme de science incarné par la Starhammer fait preuve de plus de retenue et sa compassion paraît plus sincère. Alors le scénario de Jimmy Sangster, il s'éloigne de la pièce, mais il s'éloigne aussi du roman. Jonathan Harker, il se rend en Allemagne, exit la Transylvanie, chez le comte Dracula, pour des raisons professionnelles, comme dans le roman, mais il a un motif caché. Son seul but est de détruire le vampire. C'était difficile, là, vu la popularité du personnage, de garder le secret sur la nature du personnage. Et c'est en accord avec Van Helsing qu'il accomplit cette mission. En fait, c'est parce que Harker a tué sa compagne, avant de se faire tuer, que Dracula part en Angleterre pour se venger donc sur Minol. Là, c'est bel et bien un prédateur, comme on l'a dit. Alors. En fait, j'ai dit que je suis rangé Mino, mais dans le film, Mino devient Lucie. Alors, parce que comme souvent, les personnages féminins qui sont opposés de caractère, ils sont interchangeables, ils ont été intervertis. Donc Lucie est sacrifiée dans le film, comme dans le roman, à part que ici, Lucie, c'est la fiancée de Jonathan Harker. Alors, tous les soupirants de Lucy Westenra disparaissent dans cette version, et Van Helsing n'a pour l'aider que l'intransigeant Hollywood, d'abord sceptique, puis convaincu après avoir été sauvé de sa sœur vampire. Alors, là encore, bon, Peter Cushing est là toujours, comme dans le personnage du roman, a toujours plusieurs longueurs de retard sur son adversaire, ce qui permet de retarder de la même manière le dénouement, qui, s'il fait preuve d'une économie de personnages et de lieux, n'en reste pas moins autrement plus spectaculaire. Que c'est le dénouement qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour les nuits de Dracula, Harvey Allen Towers il avait réussi à obtenir la collaboration de Christopher Lee en lui promettant, ça avait été évoqué tout à l'heure, une adaptation fidèle du roman. Alors donc, il a, à défaut de Peter Cushing, il a fait appel à une autre star Hammer, Herbert Lom, pas du tout la même chose. Alors, en effet, le film se montre fidèle, tout au moins au début, puisque pour une fois, on a droit au journal de Jonathan Harker, qui est bien transcrit. Enfin, j'ai juste rendu le film même, en imitant le style Hammer, on a droit à l'expédition dans la crypte, très rapidement écourtée. Après, ça se gâte. Nous retrouvons Jonathan en proie à la fièvre, qui est soigné dans un hôpital. Mais à la place des religieuses, comme dans le roman, c'est le docteur Seward qui le soigne là-bas à Bucarest, et il travaille dans un asile qui est dirigé par le professeur Van Helsing. Donc là, la fidélité se termine là. Après, il y aura d'autres séquences qui seront empruntées au roman, mais dans le plus grand désordre également. Alors le comble en plus, c'est que dans le film, Van Helsing joue les sceptiques de service, et il est incrédule devant le récit de Jonathan, ce qui vaut à Jonathan d'être interné. C'est uniquement avec la maladie de Lucie qu'il a commencé à comprendre. Et après, bon, Van Helsing n'a cessé de répéter qu'il n'avait aucune chance face au monstre, jusqu'à ce qu'une attaque cardiaque le laisse diminuer. C'est vrai que le film de Jules Franco, en plus, n'est pas excellent. Alors en 1979, donc gros budget, depuis le triomphe de l'exorciste, l'épouvante, bon, c'est toujours un genre bis, mais cette fois, les producteurs n'hésitent pas à mettre des budgets plus conséquents. Et surtout, les plus grandes stars n'hésitent pas à apparaître dedans. C'est ainsi Laurence Olivier, grand acteur shakespearien, qui joue Van Helsing. Bon, mais il y a un Van Helsing âgé de 72 ans. Bon, un peu âgé, là, pour tenir tête à Frank Langella, qui lui aussi avait joué Dracula à la scène. Nous l'avons dit tout à l'heure. Alors comme c'est un remake bien, du film de 1931, on revient à la pièce de théâtre. On ne va pas parler de l'évolution de Dracula, bon, c'est sûr qu'on a parlé tout à l'heure. On va quand même dire que le Dracula, c'est un Dracula new look, donc plus sexy. Alors nous sommes désormais dans les années 70. Et la perception du vampire a été modifiée par la révolution sexuelle. Désormais, il ne représente plus l'interdit, mais la liberté. Et le Dracula New Look, diablement sexy, représente cette évolution. Mais alors même que le vampire gagne en séduction et en profondeur, ses adversaires, eux, perdent. Donc Fred Savéragen, le premier, avait présenté Van Helsing comme un fanatique sadique et le comte comme un personnage romantique qui était victime de la haine et des préjugés. La fiancée de Jonathan Harker, elle n'est plus hypnotisée, c'est volontairement qu'elle se jette dans les bras du comte. Donc ici, les chasseurs de vampires n'ont pas la stature pour vaincre le vampire. Bon, Jonathan Harker est plutôt insipide, sous les traits de Trevor Eve. Donald Pleasance, c'est plutôt cabotin dans le rôle de Seward. Quant à Van Helsing, bon, il est bien trop faible pour survivre et il est empalé par le comte avec le pieu que lui-même lui destinait. D'ailleurs, le personnage de Van Helsing dans le film de Badham n'est plus le sauveur appelé à la rescousse. En fait, il est appelé par le docteur Seward lorsque sa fille, Mina, là encore une fois, les noms des personnages féminins ont été inversés, lorsque sa fille Mina est vampirisée. Donc là, en fait, ici, Van Helsing est le père de Mina. Et c'est Lucie qui est la fiancée de Jonathan. Alors là, d'une certaine manière, l'interversion des noms des personnages féminins, elle sert. Donc Mina est devenue Lucie, fiancée de Jonathan et fille du docteur Seward, comme dans la version 31, et Lucie, Mina Van Helsing. Alors leur changement de prénom et de nom n'est pas la seule différence par rapport au roman. Une héroïne convenable n'a plus à rester dans l'ombre des hommes et à réfréner ses envies. Nous ne sommes plus dans l'Angleterre victorienne de Stoker, mais au XXe siècle. Et le scénario, d'ailleurs, a transposé l'action en 1913. Lucie, donc la Mina de l'écrivain, n'est pas seulement une femme d'esprit et de décision, comme dans le roman, mais également une femme indépendante et émancipée. Ce n'est plus la jeune femme moderne et active sexuellement, Lucy Westenra, qui est condamnée à disparaître, mais l'héroïne victorienne, Mina Murray, dont l'époque est révolue. On rappelle, nous arrivons à la superproduction de Coppola, Bram Stoker's Dracula, qui perpétue la tradition du vampire romantique et qui se veut la première adaptation fidèle du roman. Effectivement, c'est vrai que la trame du roman est bien respectée en général, et il y a même le principe des voix off pour restituer l'idée d'une succession de journaux personnels. Mais si la lettre du texte est respectée, c'est moins vrai de son esprit. Donc Dracula est ici un personnage romantique, un monstre avec un cœur à défaut d'âme, tandis que ses adversaires, eux, sont des fanatiques. On sent l'influence de Fred Savéragen. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, puisque la Columbia a demandé à Fred Savéragen d'écrire la novélisation du film. Finalement, c'est Jonathan Harker qui est le personnage le plus épargné, comme il était déjà dans les Confessions de Dracula. Alors, l'expédition transylvanienne donc, est courtée, quelque peu modifiée. Il reste combien de temps?
10 minutes, 5 bonnes minutes. Entre 5 et 10. Ouais, tu vois, 10 minutes. Pardon.
Quelques minutes là pour voir si je vais être dans les temps ou s'il vaut mieux que je raccourcisse. Avant que vous vous endormiez. Bon, bah sinon, on peut dire. Bon, Anthony Hopkins, donc c'est Anthony Hopkins, donc encore une star, qui joue le rôle de Van Helsing. L'acteur, il se montre fidèle au personnage des romans, parce qu'il est extraverti et passionné, comme chez Stoker, et obsédé jusqu'à la folie, comme chez Savéragen. Donc, c'est un Van Helsing sans aucune compassion, avec une mission plus importante que le sort de ses alliés. D'ailleurs, les personnages sont. C'est vraiment le Dracula, le personnage le plus sympathique du film. Parce que Arthur Holmwood est un aristocrate arrogant et futile. Seward, un médecin obsédé par ses travaux. Quincy Morris, un fruste brutal. Je vous ai dit, avec le Harker, qui finalement est assez sympathique, mais falot. C'est vraiment une histoire romantique, là, puisque, comme dans la version 79, Mina est vraiment amoureuse de Dracula et infidèle à son mari. On va passer ça. Alors finalement, dans la très longue filmographie de Dracula, on l'a vu, très peu d'adaptations fidèles du roman, parce que c'est plus facile d'en faire une adaptation, une transposition moderne. Avec un vampire immortel, c'est facile de le transposer à l'époque moderne. Ça mieux.
Une contraction du temps.
Alors, on va aller, Dracula. Alors, dans Dracula 2000, donc, il y a un descendant de Van Helsing, puisque étant donné que Van Helsing ne peut pas survivre, c'est un de ses descendants. Il y a déjà eu Lorimer Van Helsing, Peter Cushing, dans Dracula 73, Dracula vit toujours à Londres. C'était un descendant, mais c'était Peter Cushing, donc il est pareil. Bon, donc, dans Dracula 2000, on a droit à Matthew Van Helsing, petit-fils d'Abraham, qui souffre de la notoriété de son aïeul. Mais finalement, ce Matthew Van Helsing, c'était Abraham Van Helsing, qui a capturé 100 ans plus tôt Dracula, mais qui n'a pas su le détruire. Rien n'a fonctionné, ni le pieu, ni rien du tout. En fait, c'est pour ça que le Dracula revient tout le temps de film en film. Ça explique. Et donc, il n'a plus que l'enfermer, tout simplement. Et pour être là, juste pour attendre le moment de le détruire, eh ben, il a dit qu'en utilisant son sang, ça lui permettrait de devenir immortel. Donc voilà, donc c'est pas un vampire, mais ce Van Helsing est devenu immortel grâce au sang de vampire, donc, incarné par Christopher Plummer. Alors, à nouveau, un Van Helsing différent dans le film de Stephen Sommers, donc, où il est joué par Hugh Jackman. Donc là, c'est un Van Helsing qui rappelle plus les super-héros Marvel que le véritable Van Helsing. Mais il fallait bien un personnage comme ça pour vaincre les nouveaux Dracula, un Dracula indestructible et démoniaque que rien ne peut abattre, ni la croix, ni l'eau bénite, ni le pieu, ni la lumière. Donc, ce Van Helsing-là, d'ailleurs, est sans doute bien plus vieux qu'il n'y paraît, bien plus vieux que Hugh Jackman. Déjà parce qu'en cours de film, on apprend que c'est lui, bien qu'il n'en ait gardé aucun souvenir, c'est lui qui a tué Dracula 500 ans auparavant. Et il pense même se souvenir avoir affronté les Romains à Massada. Donc ce Van Helsing donc, s'appelle Gabriel, comme l'ange guerrier. Donc est-il cet ange déchu envoyé parmi les hommes? Donc plus surhomme que détective de l'occulte. Mais il agit d'ailleurs plus vite qu'il ne réfléchit. C'est évidemment un personnage surnaturel comme celui qu'il affronte. Anna Valorius qui lui demande « Certains disent que vous êtes un meurtrier, d'autres disent que vous êtes un saint homme. Qu'en est-il ?» Il répond simplement « Un peu des deux, je pense. » Donc l'image du chasseur de vampires, donc, selon Bram Stoker, a longtemps perduré. Le vieux scientifique hors norme qui a la connaissance des choses secrètes. Avec les années 70, on l'a surtout retrouvé dans les parodies. Et dans les années 90, le monde a changé, les mentalités également, le monde est devenu plus dur. Bien qu'il évolue dans le 19e siècle gothique de la Universal, le Gabriel Van Helsing de Sommers est plus un personnage moderne, avec ses méthodes expéditives. C'est pourtant pas le plus violent de tous. D'ailleurs, il a des remords. Il dit donc à l'évêque, « Pour vous, ces monstres sont des êtres maléfiques qui doivent disparaître, mais je suis celui qui est là lorsqu'ils meurent et qu'ils redeviennent humains. » Alors, s'il est plus humain que d'autres, ce Van Helsing, ce n'est pas parce qu'il est mandaté par le Vatican. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir des prêtres qui affrontaient les vampires, enfin les implacables tueurs de vampires joués par James Woods dans le film de John Carpenter, « Vampire », ou Jason Scott Lee dans la franchise « Dracula 2000 ». Donc, puisque ce sont des personnages très violents, beaucoup plus que leurs aïeux, avec une morale ambiguë, la morale du « la fin justifie les moyens ». Alors, dans les années 70, avec des personnages, bon là on va parler des vampires, comme Barnabas Collins, Lestat et le Dracula de Saberhagen, les vampires, ils ont commencé à s'humaniser, à défendre l'humanité et à la défendre contre les vampires maléfiques. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître maintenant des chasseurs de vampires qui étaient vampires. Donc, ensuite, la tendance, elle s'est même développée ces dernières années avec des auteurs comme Christopher Golden, Stephanie Meyer, Alan Ball, auteur de Twilight et de True Blood, qui ont plus une dette envers Anne Rice qu'envers Bram Stoker. Notamment le notamment dans les relations entre vampires et humains, relations sentimentales. Alors, on arrive donc à des vampires, chasseurs de vampires, donc comme Angel dans la série TV Buffy. Et donc, dans ce monde plus violent, pas étonnant que les chasseurs de vampires traditionnels aient disparu. Abraham Van Helsing lui-même est devenu vampire, notamment dans le roman Dracula l'Immortel. Et vampire, il n'a pas su résister au pouvoir de Dracula. Il est devenu son serviteur, ce qui indiquerait qu'il a moins de force de caractère et de volonté que de modernes vampires, chasseurs de vampires, comme Hannibal King dans les comics Tomb of Dracula. Alors finalement, maintenant, il n'y a plus que des chasseurs qui sont dotés de super-pouvoirs, comme Blade, Anita Blake ou Buffy Summers, qui sont capables de survivre. Alors, en conclusion, alors Van Helsing a autant évolué que Dracula et de Stoker à Saderhagen, alors que le vampire s'humanisait, le chasseur devenait de plus en plus dur, antipathique, un fanatique digne des chasseurs de sorcières de Salem. Alors, chez Stoker, Dracula était le mâle symbolisant le sexe interdit de l'Angleterre victorienne. Dans les années 70, avec la révolution sexuelle, il est devenu le symbole de cette nouvelle liberté, tandis que le vieux savant n'était plus qu'un censeur dépassé et intolérant. Alors cette double image, qui en un siècle ou presque s'est totalement inversée, se retrouve chez Saderhagen, Dacre Stoker et bien d'autres. Alors dans les années 90, donc. Alors Dacre Stoker, lui, il a passé l'action de son roman à la même époque que celle de son aïeul, une suite du roman original. De toute manière, à son époque, les années 90, les personnages, ils avaient encore évolué. Donc, dans un monde plus violent et plus chaotique, dans Dracula 2000 et Blade Trinity, Dracula n'a jamais été aussi violent, aussi maléfique. Alors, il faut désormais un guerrier pour l'affronter. Et Van Helsing, l'homme de science, est devenu homme d'action. Dans Van Helsing, il devient même super-héros. Mais ce Van Helsing n'est plus celui de Bram Stoker, qui, comme son Dracula, ne pouvait pas survivre hors du 19e siècle victorien. Toutefois, le film de Sommers a au moins eu le mérite de ramener au premier plan un personnage qui était resté jusque-là dans l'ombre de son immortel adversaire. Voilà.
Ok, merci Patrick.